Le journal, Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, l'inquiétude de la communauté LGBT en Hongrie. C'est aujourd'hui que doit entrer en vigueur une loi très controversée qui interdit la promotion de l'homosexualité chez les mineurs. Les ONG craignent censure et discrimination. Reportage à Budapest dans un instant. À Barcelone, les discothèques, elles, s'apprêtent à refermer leurs portes. Mesure de restriction face à la flambée des chiffres du Covid. Plus de 30 000 nouveaux cas en 3 jours en Espagne. À suivre également ces grandes entreprises françaises qui ne respectent pas la loi sur l'environnement et les droits humains. Des services secrets moins secrets, lancement hier d'un premier site internet. Et pour finir, des pâtés de sable à Trouville, les vacances ont bel et bien commencé.
Et au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, c'est donc aujourd'hui l'actrice réalisatrice américaine Jodie Foster qui vient de recevoir la Palme d'Or d'honneur du Festival de Cannes.
France Inter.
C'est une loi qui scandalise l'Union européenne, Sébastien, mais qui sera finalement appliquée en Hongrie.
Oui, une loi du très conservateur Viktor Orban. Le texte, au départ, était censé lutter contre la pédophilie, mais au final, il prévoit d'interdire l'accès pour les moins de 18 ans à toute représentation de l'homosexualité ou du changement de genre. Une loi au contour très flou qui, selon les ONG, risque de bannir toute image problématique des médias et des écoles. Notre reporter Louise Baudet a recueilli les craintes de la communauté LGBT à Budapest. Son reportage.
J'ai pas encore peur, mais on sait pas ce qui va se passer. Je vais réfléchir à déménager de la Hongrie avec ma copine, oui.
Ioana Majercik est la porte-parole de la Budapest Pride qui aura bien lieu comme prévu le 24 juillet, n'en déplaise à Viktor Orban et à sa loi qui interdit la représentation de l'homosexualité devant les mineurs.
Le texte de la loi n'est pas clair du tout. On peut même penser à une série sur Netflix avec des personnes genderqueer où on peut imaginer un roman avec un couple lesbien.
Personne ne sait ce que veut dire portrait ou promotion des homosexuels.
Aaron Demeter, d'Amnesty International Hongrie.
Du coup, personne ne sait comment lire la loi. Ça incite à l'autocensure, et c'est le but principal de cette loi.
Une loi qui officiellement protège la famille, pierre angulaire de la révolution conservatrice d'Orban, assimilée à une menace. Les personnes LGBT se sentent-elles en danger ? Csaba Lukács, directeur d'un des derniers journaux d'opposition hongrois.
Je ne me sens pas menacé, mais c'est vrai qu'on peut toujours trouver des gens stupides qui, parce que la propagande leur dit de haïr quelqu'un, vont vous haïr.
La haine des migrants, des ONG et maintenant des LGBT, façon de rassembler l'électorat conservateur à moins d'un an des législatives, façon aussi d'escamoter les sujets qui fâchent, captation des richesses nationales par le clan Orban et gestion très contestable de la pandémie.
Voilà, reportage de Louise Baudet à Budapest il y a une semaine. Bruxelles a lancé un nouvel avertissement à la Hongrie sous peine de sanctions pour qu'elle renonce à sa loi, mais aucune réponse des autorités à ce jour.
7h33, l'Espagne frappée de nouveau par le Covid, Sébastien, avec un risque de cinquième vague épidémique.
Oui, la situation sanitaire s'est brutalement détériorée ces derniers jours avec une explosion des cas chez les jeunes qui affiche un taux d'incidence de près de 600. Résultat, une partie du pays a décidé de fermer ses portes à nouveau. La Catalogne, l'une des destinations favorites des jeunes européens, va baisser le rideau de ses discothèques à compter de vendredi pour 15 jours au moins. Une décision qui tombe mal, Céline Autain, l'Espagne commençait à peine sa saison touristique.
Plage, sangria et boîte de nuit, le programme de Max et de ses amis en vacances à Barcelone était tout tracé jusqu'à cette annonce de la fermeture des discothèques.
C'est un énorme coup au moral, le début des vacances, quoi, début juillet, tout commence à refermer, c'est pas fou, les gens sont un peu tristes, même l'ambiance à Barcelone est un peu triste. On est aussi là pour ça, quoi, tous les bars, toutes les discothèques, et là que ça ferme, c'est pas super, quoi.
Une mesure drastique car les contaminations chez les jeunes explosent d'après le gouvernement catalan. Max le constate chez ses amis espagnols.
Je dois connaître, je pense, une trentaine de personnes qui sont touchées et au total une cinquantaine de personnes qui sont soit positives, soit cas contact. Et je peux voir aucun de mes amis en ce moment. Ça allait sauter, quoi, c'était sûr.
La fermeture doit durer pour l'instant 15 jours, mais elle est de très mauvais augure pour la saison touristique. Samuel Montero, DJ français à Barcelone.
Moi, j'ai eu la chance de mixer ces deux dernières semaines ici. J'ai pu voir l'engouement des Français qui étaient là. En majorité, le tourisme repartait. Et là, je vois plein de gens qui m'envoient des messages en me disant « Ah ouais, mais du coup, peut-être on va pas venir. » À chaque fois qu'on sort un peu la tête de l'eau et qu'on voit le planning se remplir et qu'on dit ok, c'est bien, ça repart, bam, on nous referme derrière. On a concrètement l'impression d'être toujours les fautifs.
Il prévoit maintenant de rentrer en France pour la réouverture des discothèques ce vendredi.
Céline Autain, la France où les chiffres du Covid remontent aussi lentement, mais sûrement, de 3585 nouveaux cas détectés ces dernières 24 heures, c'est 50% de plus qu'il y a une semaine. Au chapitre politique, le Parti communiste français a lancé hier sa caravane d'été Tour de France pour nourrir la campagne présidentielle de son candidat Fabien Roussel. plus de 4000 km pour convaincre. Top départ hier à Marseille dans un fief historique du PC, le quartier de l'Estac, Mathilde Vinceneux.
Le défi des jours heureux, voilà le slogan de campagne inscrit sur la caravane et les affiches aux couleurs Macumba, comme le résume une membre de l'équipe. Très peu de rouge historique, beaucoup de jaune, de violet, de rose et des goodies, des jeux pour mobiliser les électeurs. Fabien Roussel, le candidat communiste à la présidentielle.
Nous voulons avoir un moyen d'échange sympathique avec les gens. On voit bien que la politique aujourd'hui, ça rebute plus qu'autre chose. C'est notre préoccupation majeure. Moi, je suis désespéré de voir que 8 jeunes sur 10 ne sont pas allés voter aux dernières élections. Et donc, nous voulons véritablement coécrire nos propositions, les enrichir.
Parmi ces propositions, un pacte pour la jeunesse, la hausse du SMIC ou encore la retraite à 60 ans. Fabien Roussel balaie les questions sur la fin de son alliance avec les Insoumis et martèle que le Parti communiste doit exister dans le paysage démocratique français. Applaudissements de la centaine de militants et sympathisants.
Il faut qu'on soit présent, il faut montrer qu'on est là.
Voilà. Il y en a qui disent oh, vous allez rester encore 2%. Eh bien, tant pis. Restons à 2%, mais après on continue, le parti il existe.
Prochaine étape pour la caravane du Parti communiste, ce sera jeudi à Nice. Marseille, Mathilde Vinceneux, France Inter.
En politique encore, Xavier Bertrand, droit dans ses bottes, toujours pas question d'une primaire à droite, il l'a redit hier soir sur TF1. Quand les grandes entreprises françaises traînent des pieds pour appliquer la loi sur le devoir de vigilance, ce texte voté il y a 4 ans devait servir à les responsabiliser sur les questions environnementales et le respect des droits humains, être vigilant notamment aux pratiques dans les pays de sous-traitance. Et pourtant, 4 ans après, une grande entreprise sur 6 environ n'a encore rien engagé, c'est le constat qu'ont fait plusieurs associations, Claire Chaudière.
Des dizaines de courriers et relances envoyés ces derniers mois, après avoir épluché un à un les sites internet des multinationales à la recherche de traces de ces fameux plans de vigilance obligatoires depuis 2017.
Donc voilà, nos organisations prennent contact avec vous dans le cadre de notre...
Résultat, détaille Swann Baumier de l'association CCF des Terres Solidaires.
On a 17%, c'est-à-dire on a 44 entreprises qui, depuis 4 ans, rendent une copie blanche, qui considère que la loi est juste une option des mastodontes de l'économie française. Et donc on compte McDonald's, Lactalis, Adrexo, Leroy Merlin. La contrainte qui est imposée aux entreprises, c'est de s'assurer qu'elles vont respecter les droits humains et l'environnement depuis leur siège, mais aussi sur leur filiale.
Et ce sont souvent les mêmes arguments qui reviennent en boucle, explique Lucie Châtelain, juriste au sein de l'ONG Sherpa. Pas besoin de plan, l'entreprise est déjà engagée, ou rejet de la responsabilité sur les fournisseurs et sous-traitants.
Ça va être, ma chaîne d'approvisionnement est très complexe, j'ai payé des auditeurs sociaux privés qui m'ont dit que tout allait bien. On espère que dans quelques années, il y aura des régulations plus contraignantes pour ces acteurs-là.
Contacter plusieurs des sociétés pointées du doigt, mais aussi l'AFEP, l'Association française des entreprises privées, ont refusé ou n'ont pas répondu à nos sollicitations. Impact climatique, pollution, déforestation, il y a urgence, martèle le Front associatif mobilisé, à assurer transparence et application de la loi.
Claire Chaudière, en bref à l'étranger, cette tentative de meurtre sur un journaliste aux Pays-Bas, un célèbre présentateur télé spécialisé dans les affaires criminelles, grièvement blessé d'une balle dans la tête hier soir, en pleine rue Amsterdam, à la sortie d'un enregistrement.
On en vient à 7h38, Sébastien, à cette initiative historique des services secrets français.
Ça pourrait s'appeler tout ce que vous avez toujours voulu savoir, ou presque, sur les services secrets, sans jamais oser le demander. La DGSI, la Sécurité Intérieure, autrement dit le renseignement, a lancé son site web hier. Une vitrine, Ariane Grissel, pour favoriser la transparence et le recrutement.
Il y a un peu de tout dans cette vitrine virtuelle. Un rappel historique, des vidéos de présentation.
Ok, donc c'est confirmé, c'est notre client. Ok, là il y a prise de contact.
Ouais, c'est reçu, pour moi c'est dans la boîte.
Les internautes y trouvent surtout des conseils pour savoir qui alerter en cas de soupçon de radicalisation ou d'espionnage. La DGSI y rappelle également le cadre légal dans lequel agissent ses agents, histoire de démythifier le tout. Un projet porté par le directeur général Nicolas Lerner.
85% des Français déclarent avoir entendu parler de la DGSI, mais dans le même temps, une très grande majorité n'est pas capable de citer avec précision ce que sont les missions de la DGSI. Je le dis souvent, à la DGSI, il n'y a pas que des James Bond. Et donc, savoir ce que sont les attentes d'un service de renseignement, ce qu'on y fait, exactement est absolument nécessaire également pour que les profils que nous recrutons soient adaptés à nos besoins.
Car au-delà de l'information, c'est l'autre objectif assumé de cette opération de communication, recruter les agents de demain. Nicolas Lerner.
La DGSI est passée de 3200 à 4700 agents au moment où je vous parle, et notamment dans le cadre de ce quinquennat, ce sont 1260 nouveaux postes que nous devons pourvoir.
Des agents supplémentaires pour renforcer la détection des comportements suspects, alors que les auteurs des 9 derniers attentats en France étaient inconnus des services de renseignement.
Ariane Grissel.
Et on termine avec des châteaux de sable, Sébastien, oui, sur la plage.
C'est ça, le symbole entre tous de vacances en famille réussies. Des vacances qui ont commencé hier soir sous la grisaille dans le Calvados. Rémi Brancato a malgré tout tendu son micro aux estivants de Trouville entre deux averses.
Un rayon de soleil et c'est parti pour Ava et Amy, pelle et seau à la main avec leurs parents.
On est à la plage.
On a créé une voiture en sable.
La mer, les mouettes, les jeux de sable, ça leur fait du bien.
On a beaucoup travaillé quand même cette année et on est content de pouvoir prendre des vacances.
D'autant que pour Clara, l'année confinée ou presque à Paris a été longue.
C'est agréable de voir la mer, ça fait un an qu'on l'a pas vue, on est content.
Et certains n'ont pas hésité à s'y jeter, comme Elian, son frère et sa sœur.
Elle est un peu froide.
Ils se roulent dans les vagues, ils se régalent.
C'est le début des vacances. Avec nos grands-parents.
Avec un grand-père, Alain, qui reste tout de même en retrait, l'eau est à 17 degrés.
C'est une grande joie de pouvoir profiter de cette liberté retrouvée, de pouvoir changer de région. Et on se gave du littoral normand.
Profiter de la côte, le programme séduit.
Bon, la saison a bien redémarré.
Guillaume Divet gère l'hôtel des deux villas. Les réservations sont au beau fixe, avec même des séjours plus longs.
Les Français qui partaient longtemps à l'étranger se reportent sur notre destination. En termes de chiffre d'affaires, on aura la même chose que l'année dernière. Les gens ont vraiment envie de revenir à la normale et de passer du bon temps. Tout simplement.
Pour l'instant, les restaurants ne sont pas complets, mais Frédéric Bigot, patron du Vivier face à la plage, s'attend à un vrai démarrage ce week-end.
Ça nous permet de nous remettre vraiment en place et de nous préparer pour la saison. En plus, il prévoit du beau temps, donc on est vraiment très contents, voilà, que ça reparte, ça fait du bien pour tout le monde.
D'autant plus de bien après 7 mois de fermeture depuis l'été dernier.
Rémi Brancato, et voilà, et quoi de mieux qu'un match de foot avec les châteaux de sable pour parfaire ses débuts de congé. Deuxième demi-finale ce soir de l'Euro de football, donc entre l'Angleterre et le Danemark. Hier, c'est l'Italie qui l'a emporté au tir au but face à l'Espagne, finale dimanche à Wembley.
Sébastien Legenie, merci. L'édito politique à suivre sur Internet.